Entretien du 10 février 1980. Visiteur. La conscience est présente dans chaque forme animée par la vie, mais elle n'apparaît dans la matière que reflétée par un principe conscient limité. Cela devrait être le contraire. Maharaj. Tout ce que vous pourrez dire sera certainement très logique au niveau corps-intellect. Et pourtant, ce n'est que lorsque votre notion d'être se sera nettoyée, complètement débarrassée de cet état corps-intellect, qu'elle deviendra universelle. L'être est la source d'où ont surgi les cinq éléments, les trois attributs, suivis de la végétation et du royaume animal. Visiteur. Le prana, la force vitale, est présente dans les végétaux. Y a-t-il également une conscience dans la plante ? Maharaj. Tout ce qui est visible et perceptible dans l'espace est créé par la conscience et imprégné par elle. Cette création tout entière finira par se fondre dans l'espace. Du point de vue du corps, chaque forme constitue une entité séparée. Mais au niveau de la conscience, elles ne sont que manifestations conscientielles et non séparées. Au fur et à mesure de vos progrès spirituels, vous découvrirez que l'unique source de l'univers est votre conscience. Il vous est actuellement impossible de percevoir cela parce que vous demeurez prisonnier des griffes de l'intelligence rationnelle. Tout ce qu'il vous est possible d'amasser aujourd'hui relève de votre identité au corps et il s'agit d'un savoir erroné. Lorsque vous posséderez le savoir concernant ce que vous êtes, vous verrez clairement que le monde et l'univers résident dans cette miette de conscience qui est la vôtre. À ce stade, vous aurez transcendé le sentiment d'être un corps pensant, tandis qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes capable de comprendre se trouve limité parce que prenant appui sur une conviction fausse. Lorsque vous percevez le monde intérieur à l'extérieur, vous le baptisez rêve. Mais ce monde est-il différent perçu à l'intérieur? Ce qui est perçu à l'intérieur est contenu dans le sentiment « je suis » au sein de la conscience. Le même processus se reproduit exactement dans l'état de veille. Votre conscience, le sentiment d'être présent, est la gousse, la coque à l'intérieur de laquelle se déploie le monde de la veille et du sommeil. Voilà l'état des choses. Mais cela aussi, vous l'acceptez au travers du corps. Tout ce que vous enregistrez est mesuré au mètre faussé de votre intelligence et vous ne pouvez rien distinguer au-delà. Le visible est un produit de l'espace. Et quand tout le visible a disparu, l'espace demeure. Quand votre monde surgit de cet espace et se concrétise, pour votre commodité, vous lui attribuez des noms variés, vous permettant de poursuivre vos activités quotidiennes. Mais en fait, aucun de ces noms n'a de réalité. Cette création est permanente, éternelle, et ne possède aucune forme ou individualité valide. Tout ce qui est simplement manifestation, au-delà de toute connaissance. Percevoir, savoir, n'est possible qu'au moyen des sens humains limités. Le manifester, qui transcende les sens humains, ne peut pas être connu. Parvenir à comprendre cela exige la pratique de la philosophie de la réalisation de l'unité, c'est-à-dire le « je » minuscule, se laissant absorber par lui-même. Cette philosophie signifie « chercher, interroger ». Comment cette présence à « je suis » se produit-elle ? Découvrir que ce sentiment « je suis » et l'univers ne font qu'un est l'aboutissement de la philosophie de l'être. La connaissance « je suis » s'enfonce, sombre en elle-même. Seulement voilà, comme vous voulez conserver intacte cette personnalité pensante, ça ne marche jamais. Quand le sentiment d'être apparaît, il n'a aucunement l'impression d'être un corps. C'est de ce sentiment d'être qu'est créé le cosmos tout entier. Au sein de cette création, vous disposez également d'une forme. Mais vous n'avez nul besoin de vous identifier à elle en tant qu'entité fonctionnant et se déplaçant indépendamment dans le monde. Le principe qui anime et propulse le corps est uniquement cet être. Cela ne provient pas du corps. Ce grand spectacle cosmique se déroule dans la conscience et à la fin, tout se dissoudra dans cette seule conscience. Méditez là-dessus sans vous identifier au corps. Et vous, conscience, découvrirez que vous soumettre à cette identité de forme humaine est l'action de l'illusion. Cette conscience est donc la graine, le principe germinatif du cosmos tout entier, comprenant force vitale dynamique, les trois attributs, inertie, énergie, harmonie, qualité d'être, et prana, le souffle vital. La conscience possède la faculté de ressentir que vous êtes. À son apparition, la conscience est libre de toute identification. Mais bien qu'il s'agisse simplement du principe universel de manifestation, son identification au corps lui fait éprouver plaisir et souffrance. La conscience se connaît seulement au travers d'elle-même. Bien rare est celui qui découvre que cette manifestation tout entière jaillit de ce qui est lui-même. Le « je » minuscule s'absorbant en lui-même est un état sans nom et sans forme. C'est le plus haut niveau de la spiritualité. La sensation d'avoir une personnalité et des besoins est ressentie comme primordiale, antérieure à tous les yogas. Mais après avoir pratiqué la philosophie de l'unité de l'être, vous vous découvrirez au-delà de tout besoin, au-delà de toute individualité. Les experts de la philosophie Kundalini se complaisent dans les visions et les pouvoirs obtenus par leur ascèse, mais il ne leur est pas possible d'expliquer la source de l'énergie Kundalini. Visiteur, je suis bien d'accord, il faut atteindre le niveau le plus haut. Mais vous avez précisé que cet être-té jaillit spontanément du niveau élevé. À notre niveau corps-intellect, nous sommes au seuil d'un mystère total. Maharaj, qu'est-ce qui vous incite à parler de niveau, à vouloir atteindre le plus haut niveau ? Le niveau n'est qu'un concept. C'est à la suite de la séparation avec le « haut » qu'apparaît le principe premier « je suis » et après lui, tous les autres concepts. La séparation veut dire dualité, altérité. Visiteur, je croyais vous avoir entendu dire qu'au niveau ultime, il régnait une indifférenciation totale. Existe-t-il un sentiment « je suis » ? De la non-connaissance apparaît la connaissance. Cette connaissance doit être découverte. Lorsque nous parlons, il nous faut chercher d'où naît ce langage. Il jaillit à partir du sentiment « je suis ». Mais quelle est la source de ce « je suis » ? Ici, en fait, je ne parle pas. Quand la parole se prononce intuitivement, on peut dire qu'elle s'exprime toute seule. L'événement initial est de se rappeler « je suis ». De ce rappel coule le langage. Donc, quel est ce « je suis » ? Dans ce rappel initial « je suis », ne l'oubliez pas, existe votre corps et le cosmos tout entier. Toutes les formes sont créées et nourries par l'essence de la matière, mais l'évidence de son être est la qualité d'être du corps. Qui éprouve cet être et d'où vient-il ? Il faut patiemment chercher au fond de soi jusqu'à ce qu'on trouve. Quand c'est fait, lorsque vous vous êtes nécessairement fixé sur le constat « je suis », se produit une surprenante révélation. Vous découvrez que du sein de ce grain d'être initial se projette la totalité de l'univers, votre corps inclus. Ce principe suprême et omnipotent, sans corps et sans forme, s'accroche à ce corps qui lui fait éprouver « je suis » et instantanément, il adopte cette fausse identité corporelle. Il se cramponne à cette forme avec une telle rapidité qu'il se différencie et l'existence indépendante et libre devient alors difficilement perceptible. L'essence de l'être, qui est ce bourdonnement intérieur « je suis », est la condition préliminaire indispensable à tout fonctionnement du corps. Ce sentiment devient confus lorsque la personne est malade et ne réagit plus lorsqu'on lui fait signe ou qu'on l'appelle. Visiteur, devrait-on dormir le plus souvent possible afin de faire l'expérience du « je suis » au moment du réveil ? Maharaj, ce contact avec « je suis » n'est pas une expérience ou une découverte effectuée par le corps pensant. C'est ce « je suis » qui permet au corps et au sens de fonctionner et de faire l'expérience de ce qui l'entoure. Vous êtes quelqu'un de cultivé, comprenez bien ceci. Croire que vous allez mourir prouve que vous demeurez identifié au corps et que le sentiment « je suis » ne s'est pas absorbé en lui-même. Cela démontre également que vous n'atteignez pas la philosophie de l'unité de l'être et donc que votre bagage spirituel sent un peu mauvais. Vous revendiquez comme représentant de ce que vous êtes un corps, alors que vous êtes uniquement la connaissance manifestée « je suis ». C'est cela qui sent mauvais. Nous parlons beaucoup de la mort, dernière extrémité de la vie, mais le commencement, la naissance, pourquoi ne pas en parler ? Avant cette naissance, vous avez été porté pendant 9 mois par votre mère. Durant cette période, possédiez-vous le Homka, le bourdonnement de l'être ? Juste après la naissance, cet être habitant dans le corps ne se ressent pas concrètement. Il lui faut quelques mois avant de commencer à se reconnaître. Plus tard encore, l'enfant apprend à distinguer quelques objets, son corps, sa mère, et aussi les sons, les mots. À ce stade, il apprend de sa mère son nom et quelques autres idées. Vous connaissiez-vous dans le ventre de votre mère en tant que fœtus ? Visiteur, non, mais la conscience est néanmoins déjà à l'intérieur de cette forme. Maharaj, se connaissait-elle pendant les 9 mois de la gestation ? Visiteur, mais elle était là. Maharaj, que cherchez-vous à prouver ? La conscience est partout. Elle est dans les fleurs, dans vous, dans moi. Elle est partout. Visiteur, bien, bien, j'ai compris. Maharaj, qu'avez-vous compris ? Visiteur, qu'il n'existe que la conscience, rien d'autre. Maharaj, ce n'est pas cette compréhension-là que je souhaiterais. La compréhension correcte apparaîtra lorsque vous aurez pris la conscience que tout ce que vous avez compris jusqu'ici n'a aucune valeur. La philosophie de l'unité de l'être rend tout ce qui avait été compris jusque-là irréel. Les soi-disant sages, se grisant de leur pouvoir et des honneurs qui leur sont rendus, ne sont pas pleinement réalisés, parce qu'ils ne sont pas complètement établis dans l'être. Un petit enfant, en qui régnait la plénitude, est nourri d'idées. Il est semblable à l'écran de la télévision qui, néanmoins, projette des images venues de l'extérieur. Le principe enfant, qui est la conscience, est engendré comme à la suite d'un processus chimique. Pour j'aime désigner la conscience comme la matière première, l'élément chimique primordial. Mais vous, ayant atteint le point le plus haut, n'êtes pas cet élément primordial au sein duquel se développent les souffrances du monde. Supposons que vous soyez centenaire. Qui s'attache à la mémoire de ces 100 années, de ces 100 années ? L'élément de base. C'est exactement comme cette photographie de mon maître sur le mur. Qu'est-ce qui maintient l'image de mon maître ? C'est le support chimique de la photographie. Dans le corps, cet élément primordial maintient cette identité et assume les diverses activités sensorielles. Je nomme l'expression de cet élément mécanique. Visiteur. Mais les éléments chimiques de la photographie n'auraient pas pu fixer l'image de votre maître s'il n'avait pas été là. Maharaj. De quoi est fait ce maître ? Où serait cette mémoire « je suis » et l'élément premier, l'ultime, l'absolu, si l'absolu n'était pas présent ? Seule l'existence éternelle de l'absolu permet l'apparition de la conscience et de ce spectacle cosmique. Visiteur, est-ce la conscience universelle qui a pris la forme de Maharaj ? Maharaj, cette bribe de conscience a pris la forme de la conscience universelle. Son image est l'univers entier. C'est cette pointe d'épingle de conscience qui, dans le sommeil profond, se déploie en univers de rêve. Visiteur, cela veut-il dire que vous appartenez aussi à mon univers de rêve ? Autant, Maharaj, avant de vous référer à moi en tant que vous, trouvez ce qu'est ce « vous ». Votre question s'est retournée comme le boomerang allant frapper celui qui l'a lancé. Alors, vous, qu'est-ce que c'est ? J'ajoute que je ne suis pas ce corps. Je ne suis même pas cet élément premier. Cet élément de base, ou conscience, est également appelé la grande réalité, la racine de l'illusion, le soi cosmique, le lien créateur. Mais la somme de tout cela est cet amour de l'état d'existence, l'amour de son être. Celui qui comprend et devient cette grande réalité est appelé Mahatma, grande âme. Vous pouvez penser prétendre au statut de sage réalisé, mais penser n'est que le fait des ignorants. Visiteur, être éveillé à la présence de cela semble donc être le plus haut état que l'on puisse définir. Cette présence paraît être au-dessus de la compréhension « je suis ». Maharaj, oui, à la condition que cette présence n'éprouve plus « je suis ». La connaissance de l'univers entier se fond dans cet état élevé. Toutes les manifestations qualitatives sont réunies dans cet état appelé Bhagwan, le Seigneur. Tous les titres et tous les états extraordinaires suggérés par ces titres fusionnent et se perdent dans cette vacuité. Ishvara devient Dieu, Ishvara, Dieu, il devient Vishwa, Vishaya, ce qui maintient l'être et la manifestation universelle. Nirvishaya, c'est-à-dire l'unique, celui qui n'a pas d'objet, non-être. Ceci ne peut être absorbé que par les chercheurs brûlants du désir de connaître leur véritable nature. Toutes les informations que je puis vous fournir concernent uniquement cette trace de conscience ayant accouché de cet univers manifesté. De plus, moi, absolu, ne suis pas cette trace, cette miette, mais je majuscule ne puis fournir aucune information sur moi. Il y a eu tant de dissolutions, tant d'éons se sont succédés, et malgré tout, cela, moi, absolu, demeure intact au sein de mon royaume, éternellement paisible. Si l'on vous demandait où vous étiez il y a 100 ans, vous répondriez « je n'étais pas ». Ce qui veut dire « je n'étais pas comme ceci, pas comme le « je suis » actuel ». Mais comment vous serait-il possible de répondre « je n'étais pas ainsi » ? Celui qui sait cela devait être présent. Celui qui se tenait là, il y a plus de 100 ans, n'était pas semblable au « je suis actuel », mais il était là, et est là en ce moment. Visiteur, il est ce « je » l'absolu ? Maharaj, allez-y, utilisez n'importe quel mot, n'importe quel concept, faites-vous plaisir. Réfléchissez plutôt, méditez là-dessus. Où étiez-vous il y a 100 ans? Pourquoi ne pas vous intéresser au moment de la conception et à ce qui s'est produit ensuite? Au lieu de cela, vous êtes constamment à l'affût de biens spirituels et matériels à acquérir. Cela ne vous aidera en rien. Dans l'essence de toutes les nourritures, ce swaraya, pouvoir de connaître, et parabdha, destinée, sont déjà présents mais en sommeil. Et la quintessence des boissons et aliments est ce sentiment d'être, ce contact, cette connaissance je suis. Visiteur. Mais ce principe pourrait-il exister en l'absence de prana, souffle vital? Maharaj. Qui pourrait être en absence de prana? Visiteur. Est-il dans la fleur? Maharaj. Il est dans la fleur. Il est même dans la couleur de la fleur. Il est partout. Après avoir écouté ces explications, que va-t-il se passer? Celui qui comprend, qui absorbe ce que je dis, arrivera à la conclusion que tout ce qui est vu, entendu, expérimenté, acquis, est totalement inutile et superflu. Même son propre contact avec « je suis » va se révéler superflu et sera transcendé. Finalement, il ne demeurera personne, simplement Dishkam Parabrahman, état absolu, éternel et sans désir. Mais nous continuons nos ascèses, les disciplines de la dévotion à un dieu, les pénitences, le japa, répétition d'un mantra, etc., afin de nous emparer de quelque chose de spirituel. Pourtant, si notre souhait se réalise, ce sera Nishkam Parabrahman, vacuité, ce qui prouve que tout cela est inutile. Même le plus haut est inutile au plus haut. Cet état est également appelé Purna Brahman, Para Atman, Parama Ishvara. À présent, retournez à la veille de votre conception. Cela est aussi est Purna Brahman. Il n'y avait alors aucun besoin de quoi que ce soit. Visiteur. J'essaie de suivre mes pensées et mes émotions et je découvre qu'elles changent continuellement. Mais je sais que ce changement a lieu devant le sans-changement. Est-ce que cette manière de procéder va se révéler utile? Maharaj. Oui, ce sera utile, mais intellectuellement. Tout ça, c'est très bien, mais la pensée n'a aucune réalité. Qu'entendez-vous par le sans-changement? Quand pourra-t-il exister de sans-changement? Seulement quand vous aurez perdu cette notion « je suis », quand le sentiment d'être se sera entièrement dissous en lui-même. N'étiez-vous pas dans cet état sans changement la veille du jour de votre conception? À partir de votre sentiment d'être un corps pensant, tout ce que vous observez se présente en tant qu'entité séparée. Moi, vous, nous, eux. Mais pour l'immuable absolu, tous ces mouvements, ce jeu de la terre et du cosmos, se produisent dans la cellule de l'être. Qu'est-ce qui est resté inchangé en vous depuis votre enfance? Aucune de votre identité n'est stable. Observez-le. Visiteur, il me semble que le principe « je » J-E, ne change pas. Me suis-je trompé? Votre principe « je » n'a toujours pas compris. Ce principe « je » est produit par la danse des 5 éléments, en perpétuelle mutation. Comment pourrait-on attribuer à ce qui est immuable votre qualité de s'éprouver « je » J-E. Dans l'absolu, il n'existe aucun champ d'activité. Aucun espace dans lequel les 5 éléments puissent jouer. Il s'agit d'un état sans attribut. Croyez-vous que si l'absolu était le contact avec je, il se donnerait la peine d'entrer dans un corps? Visiteur. Quand je médite, mon attention se porte sur la conscience en elle-même, mais j'ai découvert qu'étant éveillée à cette pure conscience, je ne pouvais pas être elle. Maharaj. Vous avez une bonne formation spirituelle. Vous parlez de la pure conscience qui est la manifestation en effusion, présente en toute chose. C'est au sein de cet état que l'on devient témoin. Vous parviendrez par la méditation à totalement oblitérer la mémoire ou la non-mémoire de la manifestation et du sentiment d'être. Tant que l'attribut sentiment d'être est présent, l'état témoin se prolonge. L'établissement dans l'état de non-témoin est l'état Advaita, le plus haut. Donc, toute expérience doit être absorbée, avalée, y compris le sentiment d'exister, qui est l'expérience primordiale. Advaita veut dire non-duel. Visiteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis éveillé à cette pure conscience, je suis assez indépendant du corps et des circonstances, et je ressens que « je suis absolu » est l'origine de cette conscience derrière laquelle « je absolu » se maintient dans un délicieux repos. Maharaj, vous parlez de la conscience. Indiquez-moi la cause de cette conscience. De quoi est-elle le résultat et l'aboutissement ? Autre visiteur. La conscience est l'aboutissement de la nourriture. Oui, dans l'essence de la nourriture, dans cette qualité, réside ce sens du « je suis ». Mais comprenez bien que vous ou moi ne sommes pas cette qualité du point de vue de l'absolu. Nous, absolu, posons en tant que « je suis ». Mais nous ne sommes même pas cet élément de base « je suis ». Premier visiteur. Plus tard dans ma méditation, il me semble m'écarter de cet état d'éveil à la pure conscience et retomber dans l'existence corporelle et mentale. C'est sur ce point que je vous demande votre aide. Maharaj. Ne faites rien, absolument rien. Simplement, soyez. Soyez simplement cette évidence « je suis ». Accrochez-vous là. Pour bien vous imprégner de cela, méditez uniquement sur l'être. Emparez-vous de la connaissance « je suis » par la méditation. Par ce processus, se produira la révélation de ce que je, absolu, ne suis pas cette qualité je suis. Rien, donc, ne doit être conservé durant la méditation, aucune mémoire. Quand, malgré tout, quelque chose apparaît sur l'écran de cette mémoire, n'en soyez plus concerné. Soyez simplement, ne faites rien. Abstenez-vous de vous relier à quoi que ce soit pendant la méditation. À partir du moment où vous le faites, la dualité se manifeste et un autre surgit. Si vous demeurez en ne faisant absolument rien, toutes les énigmes seront résolues et dissoutes. La racine de l'illusion initiale, relâchera l'emprise qu'elle a sur vous et disparaîtra. Dans la spiritualité, il n'y a ni perte ni profit et pas davantage naissance et mort. Vous n'avez de toute façon aucune expérience directe de la naissance. C'est quelque chose ressemblant à l'accident de Calcutta, ce vol qui s'est produit à Calcutta et dont moi, ici, à Bombay, je serai accusée. On m'accuse non seulement de cette naissance, mais de centaines d'autres auparavant. Je ne suis conscient d'aucune naissance. Seuls mes parents, que je ne connaissais pas, m'imputent cette naissance. Après ces révélations, n'avez-vous pas honte d'accepter l'accusation d'être né ? J'ai pu être délivré de toutes ces charges imaginaires lorsque j'ai rencontré le Sadhguru qui a allumé la torche de la sagesse et m'a révélé ma véritable nature en tant que « je suis le non-né ». Dans le royaume du non-né, il n'y a pas de place pour le « je suis », pas plus que pour la lune, les étoiles ou le cosmos. Fin de l'entretien.